continuer sur ce qui caractérise les prophètes. Grand 2. Et on va voir d'abord le fait qu'un prophète est un voyant. Alors, le voyant, c'est le premier des noms avec lesquels on désigne un prophète, le voyant. Dans les premiers livres de la Bible, on disait un voyant, on ne disait pas un prophète. Et puis après, il y a le mot nabi, qui est le mot prophète, voilà, celui dont on a parlé, celui qui prédit, qui parle pour un autre, qui devine. On appelle aussi les prophètes des hommes de Dieu, des anges, des envoyés du Seigneur, des messagers. Donc prophétiser, alors le mot prophétiser, en fait, c'est assez large, hein. Ça peut vouloir dire soit prédire l'avenir, ça peut vouloir dire être inspiré, ça peut vouloir dire expliquer quelque chose, comme par exemple Aaron, il prophétise devant le peuple parce qu'il explique les sentiments de Dieu que Moïse a reçus. Moïse dit « Dieu m'a dit ça », il explique à Aaron et Aaron prophétise. Voilà, il fait le prophète, il transmet un message qu'il n'a pas reçu directement. Ça peut vouloir dire aussi s'agiter, comme Saül qui est ému par un mauvais esprit, en 1 Samuel 18. Et là, il prophétise, il rentre en transe, et puis des fois, il prend sa lance et il essaie de transpercer David. Et bien là, en fait, il prophétise, c'est-à-dire qu'il va être le vecteur de quelque chose qu'il dépasse. C'est ça que ça veut dire prophétiser dans la Bible. Donc prophétiser ne veut pas forcément dire venir de Dieu. Alors, ce qui explique un petit peu le fait que le prophète soit un voyant, c'est Amos au chapitre 3. Là, je vous l'ai mis sur la feuille. Amos chapitre 3, versets 3 à 8. C'est un passage qui va dire comment, dans des situations concrètes, le prophète se positionne. Donc Amos 3, versets 3 à 8. Là, je lis là. Deux hommes vont-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés? Un lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Un lionceau donne-t-il de la voix dans sa tanière s'il n'a pas fait de capture? Etc. Et à la fin, il est dit, car le Seigneur, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Un lion a rugi, qui ne craindrait? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Ça montre comment les secrets de Dieu vont se révéler à un prophète. Donc, ça va être quoi? Ça va être, le prophète, il voit deux hommes qui vont ensemble, si je prends le premier verset. Il va deviner, bah, ces deux hommes, ils sont ensemble parce qu'ils se sont concertés. Il va piger le truc, il va dire, bah, ce qui s'est passé avant cette situation que je vois, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose entre eux qui a fait qu'ils se sont concertés. Le prophète, il entend un lion qui rugit, donc symboliquement quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Donc le prophète, il va savoir, oui, bon, bah, en fait, cette personne qui fait peur à tout le monde, elle a un objectif. Ou alors l'esprit qui la meut, parce que cette personne est quelqu'un qui est très stressé, donc quand on est très stressé, on est inquiet, on désespère, on est manipulé en fait par le mal. Et en réalité, c'est parce que le mal a un objectif derrière tout ça. Donc si le prophète, il arrive à deviner quel est l'objectif du lion, il a un coup d'avance. C'est ça l'esprit prophétique en fait, c'est de voir dans une situation donnée ce qui s'est passé avant. Vous voyez, c'est pas forcément l'avenir. En fait, il va pouvoir prédire l'avenir parce qu'il va dire, bah donc, le lion, il va sauter sur lui, donc il faut qu'on défende lui. On va vouloir, dans une entreprise, déstabiliser un salarié pour pouvoir le licencier, enfin, lui faire commettre une faute grave. Je vais dire une bêtise, hein, mais. Et ben, peut-être que le prophète, il va deviner ça, et puis il va aller voir le salarié en disant, allez, garde la tête sur les épaules, ne fais pas de bêtises, rentre chez toi plutôt que de rester au boulot. Vous voyez, et voilà l'action concrète du prophète. Il va agir sur l'avenir parce qu'il interprète le présent et le passé. Donc finalement le prophète c'est l'éternité, c'est-à-dire que le prophète il comprend certains secrets de Dieu, et en faisant ça, comme Dieu est à la fois dans le passé, le présent et l'avenir, et le prophète a une meilleure perception du passé, de comment agir dans l'instant présent pour mieux préparer l'avenir, parce que le coup d'après c'est que le lion va sauter sur un tel, donc il connaît l'avenir quoi, voilà. Donc à la fin, il est dit, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Un lion a rugi, qui ne le craindrait? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Ça c'est le lien qu'il y a entre le prophète et le Seigneur. Enfin, entre le Seigneur et le prophète, c'est le fait que le prophète a peur de blesser le Seigneur. Le Seigneur lui révèle des choses, et un prophète, normalement, il dit, bon, Seigneur, tu m'as dit ça, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est pas une info gratuite que tu me donnes. La Vierge Marie, l'ange lui a dit, ta cousine est enceinte, et ben, la Vierge Marie s'est dit, si on me l'a dit, c'est qu'il y a une raison. Donc, elle aurait pu prier pour sa cousine. Elle aurait pu lui envoyer des vivres. Et là, elle a dit, moi, à mon avis, l'idéal, c'est que j'aille l'aider. Voilà. Elle s'est dit, c'est ça que le Seigneur me demande. Et elle a exercé sa liberté pour utiliser cet élément prophétique qui lui a été donné. On a, de la même manière, Balaam, le mauvais prophète dans le livre des Nombres, chapitre 24. Il dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme à l'œil ouvert. Donc, avec l'œil de la foi, avec un œil spirituel qui voit avec une vue perçante, c'est ça que ça veut dire. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit ce que lui montre le puissant, quand il tombe en extase et que ses yeux s'ouvrent, quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures Israël. Voilà, il est en train de bénir alors que on lui a demandé de maudire, mais il dit, mais moi, je dis aussi ce que le Seigneur me montre avec mon œil ouvert. Et voilà, avoir l'œil ouvert, c'est dire ce que le Seigneur nous montre, même si c'est quelque chose de contraire à ce qu'on pensait dire au départ. On a saint Paul, hein, qui a eu une extase quand il a été aveuglé, et cette extase est racontée en 2 Corinthiens 12. Vous pourrez lire. On pense que c'est grâce à ça qu'il a connu autant de mystères. En fait, il a été projeté au ciel et il a voilà, c'est ce qu'il décrit dans le chapitre 12. Et Dieu lui a révélé tellement de choses qu'après, il a passé sa vie à distiller ce qu'il avait reçu avec des mots qui étaient bien fragiles, bien faibles, par rapport aux vérités qui lui avaient été révélées. Quoi. Son œil s'est ouvert d'un coup à lui. Donc, si on prend les choses dans l'autre sens, c'est l'aveuglement qui empêche d'être prophète, parce qu'on est un mauvais guide et on guide les autres personnes qui sont également aveugles dans un trou. Ça, c'est Matthieu 15, 14, Jésus dit ça. Ne pas voir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui compenserait nos récriminations. Pourquoi nous récriminons-nous, en fait ? Voilà. Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de reconnaissance, on n'a pas assez de tendresse, on n'a pas assez de quelque chose. Et il y a un mot en hébreu, c'est « amon » ou « hamat ». C'est le tumulte, la rumeur, le murmure, la multitude. C'est aussi les grandes eaux. Ça désigne, à mon avis, ce qui empêche, c'est la récrimination. C'est-à-dire, je me concentre sur ce qui me manque, alors que ce qui ouvre mon œil prophétique, c'est de me focaliser sur ce que j'ai. Une personne, par exemple, je reprends l'exemple d'un responsable dans mon entreprise qui me persécute, et bien si j'arrive à me concentrer sur les bonnes choses que fait mon responsable, et bien mon œil spirituel s'ouvre, et je suis un prophète, et je vais pouvoir me nourrir de cette sauterelle, vous voyez, comme je vous ai dit. Parce que je vais chasser la récrimination qui naîtrait aussi de manière naturelle, hein, parce que c'est normal, quelqu'un me blesse, je vais avoir envie de récriminer, de me plaindre, d'en parler à tout le monde, de râler, de me plaindre dans ma tête en disant comme c'est horrible, dans l'adoration de ne penser qu'à ça. Et le Seigneur, il me dit, je te donne des moyens pour te défendre. Tu peux te confesser, dans la confession, tu peux dire, Seigneur, je demande que le Seigneur vienne visiter telle blessure que j'ai eue. Je peux en parler à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément néfaste de parler à quelqu'un si c'est pas uniquement pour se plaindre d'une manière stérile, si c'est quelqu'un qui nous aide à faire un petit peu la lumière sur la situation qu'on a vécue, parce que cette personne, elle va pouvoir peut-être nous aider à ouvrir notre regard spirituel. Le prophète, c'est quelqu'un qui voit et qui se bat contre ses propres récriminations, ses propres peurs, tout ce qui fait que son regard est perturbé, qu'il a une poutre dans les yeux et qu'il va dire Seigneur, aide-moi à vaincre cette poutre. Et pour enlever la poutre, un des meilleurs moyens, c'est la louange. Merci Seigneur pour le truc qui me fait souffrir et j'arrive pas encore à dire merci. Alors je te dis merci quand même parce que j'ai foi en toi. Il y a sûrement des bonnes choses dans cette difficulté que j'ai aujourd'hui. Ce qui caractérise les prophètes, petit b, le prophète est un signe. On en a parlé un petit peu, c'est Osée qui épouse une prostituée, parce que tu vas montrer à mon peuple qu'il s'est prostitué, et tu vas avoir des enfants que tu vas appeler Israël, Dieu s'aime, Lo-Ruhama, celle dont on n'a pas pitié, Lo-Ami, pas mon peuple, voilà, pour dire finalement toutes les œuvres que tu fais, ça sera des œuvres qui seront loin de moi. Donc le prophète, il fait des choses, et comme les gens savent qu'il a une étiquette sur la tête, il a une longe comme le chameau, eh bien les gens, en le regardant, sans même qu'il parle, va parler à la place du Seigneur, en fait. Juste par son attitude. Alors Ézéchiel, c'est le champion de la mise en scène. Le Seigneur lui demande tout le temps de faire des trucs bizarres, et tout le monde le regarde, et après, si vous voulez... Enfin, pour méditer là-dessus, Ézéchiel, c'est vraiment top. Notamment, Dieu lui dit, tu vas construire une petite ville, et puis mettre des parpaings comme ça, et faire comme si tu assiégeais la ville, etc. Et ben voilà ce qui va se passer après, vous allez être assiégé. Alors il commence à faire ça, tout le monde le regarde, et c'est rigolo. Au chapitre 5, Dieu lui dit, tu vas te raser les poils, et puis tu vas faire 3 tas. Alors Ézéchiel, il fait ça, il est devant tout le monde, il y a les gens qui le regardent, puis il fait 3 tas, puis Dieu lui dit, le premier tu vas le brûler, alors il brûle, le deuxième tu vas le couper, alors je sais pas comment on fait avec une épée pour couper des poils, ça doit pas être facile, avec des ciseaux peut-être, et le troisième tu vas le disperser aux 4 vents, voilà. Et puis les cheveux qui vont rester sur la table, tu vas les mettre dans le pan de ton manteau. Et voilà, alors il fait ça à Ézéchiel, et puis Dieu lui dit, ensuite tu vas pouvoir dire au peuple qui va te demander, mais pourquoi t'as fait ça, en plus t'as plus de poils, et c'est bizarre de faire ça. Vous, vous êtes mon peuple, vous êtes comme mes poils, c'est-à-dire que Dieu dit, bah, vous êtes autant attaché à moi que les poils sont attachés à un homme, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes intimement lié à moi, quoi. Et ben, parce que vous avez voulu vous détacher de moi, c'est vous-même qui vous êtes rasé les poils. Et pour vous montrer votre péché, une partie d'entre vous va avoir des problèmes de, va être brûlée. Donc brûlé parce qu'il y a des ennemis qui vont venir, qui vont incendier, parce que on va être brûlé par notre péché, on va être blessé par notre propre péché. Un tiers va être coupé en morceaux, donc ça va être les ennemis qui vont l'attaquer, ça va être des difficultés qui vont prendre le dessus sur nous. Et un tiers va être dispersé aux quatre vents, bah ça je vais être dispersé, alors ça va être pour les Hébreux, ça va être l'exil, le peuple qui part en exil, et pour nous ça va être je suis dispersé dans plein de choses et j'arrive plus à refaire mon intimité dans le désert, quoi. Voilà, c'est ça. Donc le prophète Ézéchiel, il montre ça, et puis Dieu dit bah oui, mais il y a un petit reste que tu mets dans le pan de ton manteau, et ça c'est le petit reste de personnes fidèles que je me garde. C'est ça va être l'église, ça va être enfin les personnes fidèles dans l'église, ça va être, vous voyez. Donc le Seigneur va se servir de tous les désagréments qui peuvent nous arriver en tant que prophète. Et si on l'offre, il faut croire que le Seigneur va rendre cette situation comme un message limpide pour ceux qui nous regardent. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir dans l'attitude du prophète. Donc le signe, il y a Jean-Baptiste, hein, si on reprend Matthieu 3, qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Il prépare les chemins pour le Christ. Maria Valtorta, qui a vu un certain nombre de choses de l'Évangile, et puis Anne-Catherine Emmerich le dit aussi, dit que Jean-Baptiste, il creusait des chemins, en fait, il avait vu en vision tous les endroits où le Christ allait s'arrêter, et il préparait des esplanades, des sièges, enfin des murets pour que les gens puissent s'asseoir. Il avait aménagé, il faisait des travaux de terrassement, en disant, celui qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de défaire la courroie des sandales, va venir ici, et donc il prenait sa pelle et sa pioche, et il encourageait les gens à construire avec lui des lieux pour que tous les badauds qui viendraient manger du pain à satiété après la multiplication des pains, ben ils soient bien, quoi. Voilà. Peut-être même qu'il a semé de l'herbe pour qu'il s'assied sur l'herbe verte. Enfin, faut imaginer. Il a préparé les chemins pour le Christ. Jean-Baptiste, il a montré le sens actuel de la loi. Il a actualisé. Il a annoncé le jugement. Il a proposé un baptême de repentance. Il a discerné celui qui est là. Il a hérité des grâces prophétiques. Et puis, il meurt martyr. Donc, c'est le signe par excellence de bah, celui que je montre en étant prophète, celui que j'annonce, et ben, il va donner sa vie, mais d'une manière encore plus parfaite que moi qui meurs martyr. C'est que ça va être la croix qui va racheter toute l'humanité, quoi. Voilà. Le prophète qui est un signe. Et puis le prophète par excellence qui est un signe, c'est Jésus. Puisqu'il dit, il me faut être chez mon père au bout de 3 jours de recherche. Donc ça veut dire qu'il pensait que à ça, quoi. À plaire à son père. Jésus, c'était celui qui montre. Et puis il est pris pour un prophète, hein. Puisqu'il y a Saint-Pierre qui lui dit, bah, pour les uns, tu es le prophète Élie. Pour les autres, tu es le prophète Jean-Baptiste qui est revenu. Donc il était reconnu prophète, déjà. Mais il n'en revendique pas le titre, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas à ça, quoi. Voilà. Il nous montre l'exemple, il nous dit, bah, ok, t'as des grâces prophétiques, mon gars. Ne dis pas, je suis prophète. Dis aux personnes, d'accord, mais c'est pas ça qui est le plus important. Finalement, c'est Dieu qui est bon. Voilà. Jésus dit ça. Qui est bon? Seul Dieu est bon. Et puis il continue à dénoncer les excès des chefs religieux, des juifs. Il révèle le contenu des signes des temps. Et il dit que les prophètes ont été persécutés, que lui aussi il va mourir en croix. Et en même temps, il est au-dessus des prophètes, puisqu'il a une destinée unique, et il procure le salut, et il parle de sa propre autorité, il dit « je suis ». Donc il y a quand même une différence avec les prophètes, quoi. Il est celui qui est le plus grand prophète, et en même temps, qui n'est déjà plus un prophète, parce qu'il est Dieu, quoi. Voilà. Donc c'est un beau modèle. Et surtout, il donne le double de son esprit prophétique à ses apôtres lors de la Pentecôte. Ça c'est très beau, parce que du coup, ça veut dire qu'on reçoit encore plus que Jésus qui était déjà le plus grand, quoi. C'est extraordinaire.